Le zèle et le vive ardeur de servir Dieu, ou le mariage, ou n'importe quoi, ou n'importe qui. La jalousie, l'envie, par contre, c'est une vive ardeur de servir le moi. Si vous êtes entièrement dévoué à vous-même, alors, où est la place pour votre conjoint dans votre vie? Et vos enfants? Et Dieu? Il y a plusieurs manières dont nous pouvons être jaloux de notre époux ou épouse. Nous sommes jaloux peut-être de certaines qualités ou d'une certaine compétence. Nous pouvons être jaloux à cause de leurs amis ou parce qu'ils ont plus de temps avec les enfants. Nous pouvons être jaloux du travail de notre époux, même jaloux parce qu'on ne peut pas participer autant que le mari au travail de l'Église. La personne qui est jalouse veut avoir plus que les autres ou elle veut que les autres aient moins qu'elle-même. Lorsque nous analysons ces qualités d'amour, nous revenons toujours à la même question. À qui sommes-nous engagés? À nous-mêmes ou aux autres? Toutes ces qualités d'amour se centralisent autour d'une des 15 qualités, c'est la 7e. L'amour ne cherche pas son intérêt. Si nous avons donc un problème avec la jalousie, il y a certaines choses que nous pouvons faire pour la chasser. Je vous en suggère 4. Premièrement, il faut reconnaître à un niveau profond les qualités que nous avons naturellement. Nous ne pouvons pas nous vanter de nos bonnes qualités parce que c'est Dieu qui nous les a données. Si je suis jaloux de la beauté de ma femme, de sa manière avec les enfants, ou si vous êtes jaloux des capacités intellectuelles de votre conjoint, de la facilité dont il ou elle résout un problème, si nous sommes jaloux à cause de ces choses, nous sommes en train de critiquer Dieu et au fond, nous sommes égoïstes. Deuxièmement, donc, il faut reconnaître que tous nos besoins trouvent leur satisfaction en Christ. Quand je suis jaloux, je dis essentiellement que Christ ne pourvoit pas à tous mes besoins et qu'il y a encore d'autres choses à obtenir. Troisièmement, il faut reconnaître que les autres, ceux aussi dont nous sommes jaloux, sont aussi importants à eux-mêmes que nous le sommes à nous-mêmes. Et je peux ajouter, si toutes les jalousies du monde, de tout le monde, sont satisfaites, quel sera l'état de notre monde? Si le monde est malade, c'est parce qu'il y a trop de monde où le moi est le plus important. Il faut appliquer la règle d'or. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, vous aussi, faites-le de même pour eux. C'est la loi et les prophètes. Matthieu 7, verset 12. Quatrièmement, donc, pour vaincre la jalousie, il faut consciemment donner notre vie pour les autres et au service de Dieu. En bref, il faut penser à autrui et agir pour autrui. Et j'ajoute une cinquième même, c'est qu'il faut prier pour l'aide de Dieu. Paul dit que la quatrième qualité de l'amour, c'est que l'amour ne se vante pas, il ne se fanfonne pas, comme dit la Bible de Jérusalem. Le mot grec traduit ici ne se vante pas ou ne se fanfonne pas ne se trouve pas ailleurs dans le Nouveau Testament. Mais je crois que nous savons tous ce que cela veut dire de se vanter. Mais comment est-ce qu'on peut se vanter chez soi? Nos bien-aimés nous connaissent trop bien. Peut-être un exemple de se vanter chez soi se trouve quand il y a des disputes entre mari et femme qui durent longtemps. Parce qu'ils ont la tendance, dans ces cas, d'exagérer, de faire les déclarations universelles comme « J'ai toujours dit cela », bien qu'ils savent bien qu'ils n'ont pas toujours dit cela. Il n'y avait pas une seule fois dans tout notre mariage, et puis il fait la déclaration. Ou « Je n'ai jamais dit cela ». Ou « J'ai pu résoudre le problème, pourquoi pas toi ?» Ou « Je n'ai pas de problème moi, comme ça ». L'implication que l'autre a toujours son problème, et donc il est en train de se vanter. Ou même par les comparaisons. « Oh, ma journée était pire que la tienne. Je devais, et puis il fait ou décrit tout ce qu'il a fait. » Mais pourquoi nous vantons-nous? Bon, il y a quatre raisons, il y a au moins quatre. Premièrement, afin de cacher un défaut. Mais d'habitude, de se vanter rend plus grave le problème. Deuxièmement, on se vante parce qu'on a peur de quelque chose, une faillite, une décision, un projet. Troisièmement, on se vante afin de cacher une insécurité. Et bien sûr, quatrièmement, il y a des gens qui se vantent parce qu'ils croient vraiment qu'ils sont meilleurs que les autres. Une personne dans la quatrième catégorie a vraiment besoin de notre sympathie, de notre compassion plutôt. Donc si un des conjoints se vante chez lui, lui aussi, il a besoin de compassion et non pas de l'antagonisme, parce que de l'antagonisme rendra plus grave encore le problème. De se vanter est une forme d'arrogance. Et l'arrogance essaie d'abaisser les autres afin d'augmenter l'importance de soi-même. Et si vous regardez bien en 1 Corinthiens chapitre 13, vous verrez que la cinquième qualité d'amour, c'est que l'amour ne s'enfle pas d'orgueil. Et ça peut être aussi, l'amour n'est pas arrogant. Et comme j'ai dit, l'arrogance essaie d'abaisser les autres afin d'augmenter l'importance de soi-même. Bon, dans le mariage, cela peut venir d'une différence d'éducation. L'un est plus éduqué que l'autre et il est toujours en train d'interrompre l'autre quand il parle ou il l'interrompt pour corriger ou pour compléter ce qu'il dit. L'arrogance se voit aussi dans le fait que l'on critique son époux ou son épouse devant les autres. Et tout ce que nous sommes en train de décrire vient de l'égoïsme, qui est le contraire de l'amour agapé. Quand on tombe amoureux de quelqu'un, et même si on se marie au début du mariage, on pense rarement à ses qualités d'amour. Ce sont toujours les choses à apprendre parce qu'on avait toujours habité seul, sauf quand on était enfant, bien sûr. Il demande donc la volonté, beaucoup de volonté, afin de développer ces caractéristiques de l'amour agapé. C'est pourquoi Il est si important que nous commençons avec nos enfants à leur apprendre le vrai amour, afin que quand ils se marient, ils aient une maturité qui donnera une richesse, une beauté à leur mariage que ceux du monde n'ont pas. Mais pour apprendre cet amour agapé à nos enfants, un amour qui est patient, un amour qui cherche à toujours aider l'autre dans le bien, qui voit l'avenir, qui regarde dans l'avenir pour voir une amélioration à longue portée. Cet amour-là s'apprend par l'exemple du parent. Donc il ne faut pas simplement enseigner, mais il faut en même temps montrer cet amour dans nos actions. Bon, la sixième qualité d'amour que Paul donne, c'est que l'amour ne fait rien de malhonnête. Et la Bible de Jérusalem dit, il ne fait rien d'inconvenant, ou la Taube dit, il ne fait rien de laid. Quand on cherche ce mot dans d'autres écrits grecs et dans le Nouveau Testament, le plus souvent, il a des implications sexuelles. Parfois même, il se traduit par le mot « nudité ». Mais l'idée essentielle, lorsque vous mettez toutes les références ensemble, est celle de honte. Paul dit que l'amour ne fait pas honte ou que l'amour n'est pas honteux ou déshonorant. Lorsqu'on comprend donc que l'amour n'est pas simplement quelque chose que l'on fait, mais quelque chose que l'on a en rapport avec d'autres personnes, on comprend que l'amour concerne au moins deux personnes, celle qui aime et celle qui est aimée. Celle qui aime vraiment et profondément ne cherche jamais à offenser ou à faire honte à l'autre. Cela se voit même à table, surtout quand on est invité ou quand on a des invités. Il y a la politesse et on est toujours bienveillant ou convenable. Cela revient toujours à penser à autrui. Si on comprend ce que cela veut dire que l'amour ne fait rien d'inconvenant, on va considérer sérieusement le problème d'harceler quelqu'un, surtout un époux ou épouse. Donc, qu'est-ce que je veux dire quand j'emploie le mot harceler? Bon, d'harceler est d'être toujours après quelqu'un, ou d'être toujours sur le dos de quelqu'un afin d'obtenir une faveur ou une chose. Ou c'est d'être toujours à critiquer quelqu'un. Est-ce que cela vous est jamais arrivé d'être après quelqu'un ou de le critiquer continuellement? Est-ce que cela vous est jamais arrivé d'être critiqué continuellement? Alors vous comprenez un peu le problème. Mais de ne rien faire de malhonnête ou d'inconvenant ou de laid, comme dit la Taube, veut dire qu'il faut considérer sérieusement nos habitudes qui gênent les autres, telles que les petites taquineries ou les plaintes, le tabac, la paresse, les manies. De ne rien faire d'inconvenant veut dire que celui qui aime n'interrompt pas celle qu'il aime. D'être bavard ou bavarde, c'est d'être inconvenant. Encore comme avec l'arrogance ou la fanfaronnade, l'inconvenance vient de l'égoïsme. L'amour ne l'est pas. J'ai dit au début donc de la définition de cette qualité de l'amour que le plus souvent ce mot a des implications sexuelles. D'être inconvenant, c'est de pervertir par des histoires ou des mots ou des gestes quelque chose que Dieu a créé comme beau. Dans le mariage même, on peut se servir de sa sexualité d'une manière honteuse. Par exemple, on se sert de sa sexualité d'une manière honteuse lorsqu'on la considère seulement comme une chose physique et le sépare, ou la sépare de toutes les autres relations conjugales. D'être frigide ou d'exiger trop de sexe de l'autre, ce sont des manières d'être inconvenant. Bref, d'être inconvenant, c'est ne pas penser à l'autre. De se servir du sexe comme une manière à manipuler l'autre. Dans le mariage, c'est d'être inconvenant. Je fais l'amour si vous faites ceci. Tout le problème, donc, vient de l'égoïsme. C'est pourquoi, dans la septième qualité, Paul résume en quelque sorte quand il dit « L'amour ne cherche pas son intérêt », ou plus littéralement, « Il ne cherche pas ce qui est à lui ». Dans le contexte de ne pas offenser un frère ou une sœur par ce qu'on mange, Paul dit au chapitre 10 d'un Corinthiens, les versets 23 et 24, « Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais celui d'autrui. » Et puis le verset 33, « Comme moi aussi, je me rends agréable en tout et à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'il soit sauvé. » Il y a parfois certains droits que nous avons, mais s'ils n'édifient pas, s'ils peuvent offenser même, ils ne sont plus importants pour nous. Nous pensons à autrui parce que nous ne cherchons pas nos propres intérêts, notre propre intérêt, et nous ne cherchons pas ce qui est à nous. Nous voulons le mieux pour l'autre. Dans le mariage, nous avons certains droits, mais il faut être prêt à les renoncer dans l'intérêt du mieux pour notre partenaire. Encore, il faut renoncer à soi-même, il faut renoncer au moi. Parce qu'on ne cherche pas son propre intérêt, huitièmement, l'amour ne s'irrite pas. Peut-être quelqu'un fait quelque chose que nous n'aimons pas. Ce n'est pas mauvais, et peut-être même c'est bon. Parce que nous l'aimons, nous n'allons pas nous irriter pour cela. De nous irriter veut dire que notre moi est atteint. Nous sommes blessés parce que ce que nous voulons n'est pas arrivé. Encore, c'est une forme de l'égoïsme. Dans le mariage et dans la famille, combien de fois sommes-nous fâchés parce qu'on a fait quelque chose que nous voulions faire ou parce qu'on a pris quelque chose que nous voulions avoir? C'est de s'irriter parce que le moi est atteint, ce qui est le contraire de l'amour. La neuvième qualité de l'amour, c'est que l'amour ne tient pas compte du mal. La colombe dit « ne médite pas le mal » et la taube le traduit peut-être le mieux en disant « l'amour n'entretient pas de rancune ». Comme des traductions variées suggèrent, la rancune vient du fait que l'on compte le nombre de fautes et on les médite et ainsi on entretient la rancune. Le dictionnaire dit que la rancune est le souvenir tenace que l'on garde d'une offense avec de l'hostilité et un désir de vengeance. C'est presque la même chose donc que le ressentiment. Comment peut-on éviter la rancune ou s'en débarrasser une fois venu? Peut-être la manière la plus efficace est de se souvenir de Jésus et de la croix. Dans les souffrances de Jésus sur la croix et avant la croix, nous voyons le plus grand mal qui a jamais été fait à une personne. Jésus ne l'a pas mérité du tout. Peut-être on nous a fait mal, même très mal. Qui a dit que l'on ne nous fera pas du mal? On a fait du mal à Jésus et qu'est-ce qu'il a fait? Il les a pardonnés tout de suite et a prié Dieu qu'il ne les condamne pas. Deuxièmement donc, après avoir réfléchi sur la mort et les souffrances de Jésus, afin d'éviter la rancune, il faut tout de suite chercher à réparer le tort. Si vous êtes offensé, que la personne le fait exprès ou non, tout de suite, il faut aller parler avec la personne afin de résoudre le problème. Sinon, vous risquez de méditer le mal. Ou comme dit la taube, vous risquez d'entretenir la rancune. D'entretenir la rancune, dit Paul, est contraire à l'amour et devient peut-être une faute plus grave encore contre l'autre personne que la faute qu'elle a faite contre vous. Troisièmement, il faut nous rappeler que nous avons aussi offensé les autres à un moment ou l'autre. Est-ce que nous voulons que les autres gardent les ressentiments envers nous? Encore la règle d'or entre en jeu. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, vous aussi faites-le de même pour eux. Car c'est la loi et les prophètes. C'est Jésus qui le dit. Quatrièmement, afin de chasser la rancune ou de l'éviter, il faut nous souvenir de la puissance de la prière. Si nous entretenons de la rancune contre quelqu'un, nous devons prier Dieu pour son aide de nous débarrasser de ce sentiment. Rappelez-vous bien que la prière d'un juste a beaucoup d'efficacité. Dans le mariage, surtout, la rancune est très, très dangereuse. L'un des époux a été offensé, au lieu de parler avec l'autre tout de suite, il garde le ressentiment au-dedans de lui-même. Peut-être c'est une toute petite chose que l'autre fait, mais avec le temps et avec le rappel d'autres petites fautes, le problème devient très grave aux yeux de celui qui a été offensé. Peut-être même il oublie la faute originale, mais il a de la rancune contre son conjoint quand même, et s'il ne se débarrasse pas de ce mauvais sentiment, le mariage est en danger. Pour vaincre tous ces problèmes dont nous venons de parler dans le mariage et entre frères et sœurs, il faut arriver à nous donner nous-mêmes aux autres. Il faut penser à autrui. Dixièmement, Paul dit que l'amour ne se réjouit pas de l'injustice. Au contraire, l'amour est attristé par l'injustice et fait tout son possible pour corriger l'injustice. Qui est-ce qui aime quelqu'un profondément et qui se réjouit d'être offensé par cette personne? Ou se réjouit d'avoir l'occasion de l'offenser? Personne. Parce que si on se réjouit dans les offenses, on n'a pas l'amour et on n'est rien, dit Paul. Rappelez-vous que Paul écrit ces versets dans le contexte de l'unité dans l'Église. Et à Corinthe, il y avait toutes sortes de problèmes qui ont provoqué les divisions. Lorsqu'on lit cette liste de qualités de l'amour agapé, il faut les mettre dans ce contexte et on voit que Paul lie chaque qualité à l'autre. Si on est patient, on sera serviable. Si on est serviable, on ne sera pas envieux. Si on n'est pas envieux, on ne se vantera pas. Si on ne vante pas, on ne s'en fera pas d'orgueil. Si on ne s'enfle pas d'orgueil, on ne pensera jamais à faire quelque chose d'inconvenant ou de malhonnête. On ne cherchera pas donc son propre intérêt. Et parce qu'on ne cherche pas son propre intérêt, on ne s'irritera pas. Si on ne s'irrite pas, on ne pensera jamais à méditer le mal ou d'entretenir la rancune. Parce qu'on ne pense jamais à méditer le mal, on ne se réjouira jamais de l'injustice, et au contraire, onzièmement, dit Paul, on se réjouira de la vérité. Plus littéralement, cela peut être traduit, on se réjouit avec la vérité. La taupe dit, il trouve sa joie dans la vérité. J'espère que dans le foyer, on ne se réjouit jamais des offenses qui arrivent, parce que de se réjouir dans le mal est complètement opposé à l'attitude et à la nature de Dieu. Si je suis content quand le mal arrive à quelqu'un, que quelqu'un fait du mal, vraiment je suis égoïste et orgueilleux. Cela sera la rébellion contre Dieu, le contraire de sa nature. De se réjouir si quelqu'un est puni est le même problème. Au lieu de se réjouir, il faut être attristé qu'il devait être discipliné, car là où il y a la discipline, il y avait d'abord l'injustice. Et on doit toujours être attristé par l'injustice. Le chrétien veut toujours que la justice soit accomplie dans sa vie et dans la vie des autres. Dans le mariage et la famille, c'est la même chose. L'époux se réjouit dans le bien que sa femme fait, les parents se réjouissent dans le bien que leurs enfants font, et c'est la même chose pour tous les membres de la famille ainsi que tous les membres de l'Église. Douzièmement, Paul dit que l'amour pardonne tout. La Bible de Jérusalem et la Taupe disent l'amour excuse tout. Ce n'est pas l'idée d'excuser les fautes ou les injustices jusqu'au point de ne jamais résoudre les problèmes. Littéralement, le mot grec stego veut dire couvrir. On laisse passer les choses qui nous gênent telles que les petites habitudes et des personnalités variées. Par exemple, on aime bien que la maison soit toujours propre et les choses toujours bien arrangées, mais la maison n'est pas toujours propre et les choses ne sont pas toujours bien arrangées. On ne le laisse pas nous gêner jusqu'à créer des ennuis. On le couvre, qui est le sens littéral de ce mot. On le couvre afin de ne pas y penser parce que nous voyons ce qui est bien dans d'autres domaines. Même là où il y a des fautes graves, on ne les laisse pas nous gêner jusqu'au point que nous pensons du mal à l'autre. On essaie de résoudre ce problème, d'enlever les injustices, bien sûr. Mais on ne va pas penser du mal de l'autre. Au contraire, nous cherchons une amélioration à longue portée de la situation. La troisième qualité de l'amour, dit Paul, est qu'il croit tout. L'amour cherche à toujours voir le bien, et cherche ce qui est bien dans les autres. Il voit des bonnes possibilités, il voit leur potentiel. Il renonce jamais à aider les autres à améliorer leur vie. Quatorzièmement donc, Paul dit que l'amour espère tout. Et l'espérance dans ce contexte est très liée à la patience. On a la patience parce qu'on espère tout. On espère tout parce qu'on a la patience. On pense toujours à une amélioration à longue portée. Encore, l'attitude de Dieu envers la rédemption de l'homme ressort dans cette qualité. Et quinzièmement, l'amour supporte tout. Littéralement, l'amour demeure sous le poids, ou l'amour tient ferme malgré les circonstances. La Taupe dit, l'amour endure tout. Littéralement, l'amour demeure sous le poids donc. Nous avons ici le mot supporter et le mot endurer prolongé dans le temps. Supporter veut dire que vous pouvez accepter n'importe quoi, et endurer veut dire que vous continuez à l'accepter avec l'aide de Dieu. Cette dernière qualité a beaucoup d'implications pour le mariage. Quand Paul dit que l'amour supporte tout ou endure tout, cela veut dire que dans le mariage, on ne renonce jamais à la vie conjugale, malgré les circonstances. On ne cherche pas le divorce, parce que l'engagement est fait. C'est un engagement fait par l'alliance du mariage et c'est un engagement fait par le commandement de l'amour agapé. Même dans les situations soi-disant intolérables, il peut y avoir de la joie pour le partenaire qui agit comme un chrétien. On endure un conjoint ou conjointe intolérable pas à cause des relations conjugales. Ces relations peut-être ne sont plus là. Mais on endure parce que d'endurer dans de telles circonstances peut donner une force intérieure, une relation avec Dieu et même une occasion pour servir qui amène une joie profonde et permanente. Rappelez-vous que la joie spirituelle ne dépend pas de bonheur humain. Le conjoint ou la conjointe dans une telle situation dit en quelque sorte « Je me suis engagé pour la vie et bien que la situation soit terrible entre moi et mon époux ou épouse, je ne vais pas commencer à dire « Oh mais quel coup de malheur le destin m'a donné. Je vais servir quand même. Qui sait ? Peut-être il ou elle changera un jour. Peut-être pas. Mais je vais lui servir et je vais servir Dieu et les autres quand même. » Paul dit en 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 8, l'amour, et c'est l'amour agapé, l'amour ne succombe jamais. Et puis, au verset 13, maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande, c'est l'amour. Que l'amour agapé soit une telle partie de notre être, que nous ayons toujours une unité éternelle, que nous ayons une unité éternelle dans cette assemblée. Que l'amour agapé soit une telle partie de nos foyers, que nous ayons une unité éternelle dans nos familles. Et à Dieu, soit la gloire. Amen.